vous bénisse. Merci les musiciens. Merci à tous, que le Seigneur vous garde aujourd'hui. Tout se passe bien. Tout se passe bien ?
Oui.
Ah, quand même. Je continue mon enseignement sur le thème de, du besoin que nous avons de juger. On va aller plus loin ce matin dans cette affaire. Et on va commencer par lire dans Marc chapitre 3 et verset 31-35. Marc 3, 31-35. Survinrent sa mère, donc la mère de Jésus, et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis jetant un regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Amen. Passage terrible. Terrible pour beaucoup de choses. Déjà, premièrement, les frères de Jésus. Beaucoup de catholiques pensent que Marie, elle s'est mariée avec Joseph, mais ils ont fait chambre à part toute leur vie. Et le pauvre Joseph, que puit. Marie est restée vierge toute sa vie. Elle s'est mariée, mais non, fermotonne. Non, arrêtez. Jésus est né de la Vierge Marie, elle était toujours vierge, c'est vrai. Ça, nous le croyons, mais nous ne croyons qu'après, quand il est né, eh bien, Joseph a connu sa femme et ils ont eu des enfants. Vous ne le croyez pas, vous le croyez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux croire ce que la Bible dit. Si la Bible dit qu'il avait des frères, c'est qu'il avait des frères. Alors, il y en a qui disent, oui, mais c'est un petit peu comme chez les gitans, on est tous frères, c'est un petit peu comme chez les musulmans, on est tous frères. Oui, bon, si vous voulez. Je continue mon enseignement. Alors, bien sûr, on pourrait parler de la famille, puisque là, c'est une histoire de famille. Et en particulier de la famille chrétienne, hein. Mais je voudrais plutôt parler de nos parents spirituels dans l'Église. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des gens que Dieu a placés et qui ont une autorité. On va lire un texte dans le Corinthiens, au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, 28. Voilà ce qui est dit là. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Ah bon, vous en connaissez beaucoup d'églises où, en premièrement, il y a les apôtres qui sont établis? C'est peut-être pas dans votre église, mais est-ce que votre église est l'église de Jésus-Christ? Secondement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de faire des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, tous, etc., etc., etc. Paul nous donne ici une liste qui n'est pas vraiment complète, parce que par ailleurs, il dit aussi qu'il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, etc., etc. Mais dans le texte que nous venons de lire, nous voyons une chose très intéressante. Dans Marc 3, 32, on voit Marie, la maman de Jésus, avec ses autres fils, qui cherchent à maîtriser Jésus. Il le cherchait pour le maîtriser. Vous allez me dire, mais comment tu le sais? Eh bien, simplement parce que je lis la Bible. Vous savez, la Bible n'est pas écrite, n'a pas été écrite par les apôtres avec des chapitres et des versets. Et si vous lisez un tout petit peu plus haut, vous vous apercevez au verset 21, Marc 3, 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Il voulait se saisir de lui parce qu'il disait, il est fou, il est hors de sens. Il risque sa peau. Il faut qu'il revienne à l'atelier pour faire des tables, des chaises et des canapés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il va s'attirer des ennuis, il est hors de sens. Paul nous dit donc cela, on apprend, on ne veut pas voir par Paul, Marc nous apprend cela. Marie et les frères de Jésus pensaient que Jésus était hors de sens, et c'est assez courant que parmi les proches, dans l'Église, eh bien, il y ait des gens comme ça, même des gens qui sont comme nos parents spirituels, vous savez, ceux que Dieu a institués comme responsables dans les Églises. Et ces gens-là existent dans le monde, mais ils existent aussi dans l'Église. Dans le monde, on voit que les gens, souvent, ont traité Paul de fou. Actes, chapitre 26-24, il y en a encore aujourd'hui dans ce monde qui disent que Jésus est fou, il y a même des chrétiens, que Paul est fou, et il y a même aussi des chrétiens qui disent que Paul est misogyne, et que ceci, et que cela. Non mais, ce besoin de juger. Au fond, ce que les gens inconvertis pensent, on s'en fiche. Par contre, ce que la propre maman de Jésus pensait, comment elle traitait son fils de hors sens, là, ça a dû faire mal au cœur à Jésus quand même, parce qu'il était homme. Et c'est souvent ce qui arrive dans l'Église. Certaines personnes qui peuvent même avoir une autorité ne nous comprennent pas, nous traitent mal, et puis on se sent exclu quand on n'est pas franchement carrément exclu. Jésus ne se sentait pas vraiment exclu par sa famille, parce qu'il savait que c'était par amour que sa mère et ses frères disaient ça, il voulait le protéger. Mais il s'est saisi de cette situation pour dire « Mes parents, ce sont ceux qui concrétisent le désir de mon Père qui est dans les cieux », c'est-à-dire qui font ce que Dieu veut. C'est cela, mes frères, mes sœurs. Personne ne peut me manipuler, c'est ça qu'il voulait dire. Même ma propre mère, même mes propres frères, non ? C'est ce que Jésus disait, c'est ce que je dis aussi. Personne ne peut me manipuler. Je sais que j'appartiens à Jésus, et peu importe que certains pensent que je suis hors de sens, voire que je suis fou. Mais là, on en fout. Je m'appuie sur mon authentique besoin d'appartenance, parce que si on a cette espèce de besoin de juger qui nous vient de la connaissance du bien et du mal, et ça c'est vraiment une malédiction, on a besoin aussi d'un authentique sentiment d'appartenance, et ça c'est une bonne chose. J'appartiens à Jésus et j'appartiens à son Église parce que c'est lui qui l'a construit, et en ce moment c'est lui qui l'a rétabli, qui la restaure, selon Actes chapitre 3, verset je ne sais plus combien.
21.
Alors, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je vis. En 77, avec mon épouse, on a tout donné, on a tout vendu, on a mis ensemble avec d'autres frères et sœurs, on a commencé à vivre en communauté pour obéir à Jésus, au Jésus de la Bible, comme il est écrit dans Luc 14, 33. Quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Alors oui, aux yeux de certains, c'est de la folie. D'ailleurs, tout le monde s'est empressé de dire que j'étais fou, de mettre en commun mes biens. Dernièrement, il y a un frère qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, hein, qui m'a écrit sur Facebook en me disant « Mais si je vends tout pour suivre Jésus, je vais devenir un SDF. » Mais comment ils lisent leur Bible, les gens? Est-ce qu'ils la lisent? Est-ce que vous lisez votre Bible? Lisez Actes chapitre 2. Lisez Actes chapitre 4. Et vous allez voir comment tout était bien organisé. L'Église, elle est organisée. La vraie Église. Et la vraie organisation, c'est ce qu'on trouve dans Acte 2 et Acte 4. Tout le reste, il y a du bon et du mauvais. Vous voyez, tout est bien organisé. Quand vous lisez la Bible, vous apercevez, c'était tellement bien organisé, c'était à tel point bien organisé qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent parce qu'ils mettaient tout en commun. C'est écrit dans Acte 4, 32-35, si vous voulez, je vous le lis, puisque peut-être vous ne l'avez jamais lu. Acte. Voyons, où est-ce que c'est ça? Acte. On va le trouver. Acte 4, 32-35. Voilà ce qui est dit. La multitude de ceux qui avaient cru, donc tous ceux qui croyaient, n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. C'était organisé. Alors mon frère, si tu veux obéir à Jésus, tu ne seras pas un SDF, mais tu risques d'être beaucoup plus riche que tu ne l'es maintenant. Parce que tu vas mettre en commun avec des gens qui ont aussi apporté leur bien. Alors quelqu'un m'a dit, encore sur Facebook, oui, en tout cas l'argent ça vous manque pas, quand on voit votre maison avec votre piscine et tout. Mais attendez, tout ça c'est à la communauté. Si vous viviez en communauté, vous auriez tout ça. Parce qu'on met tout en commun. Plutôt que de vivre dans un petit HLM ou un grand HLM ou un pavillon de banlieue avec des voisins qui font les sardines à gauche et des voisins qui font je ne sais quoi à droite et ça pue et tout. Non, nous on vit tous ensemble dans un cadre merveilleux parce qu'on s'est donné les moyens de le faire. Comment ? En mettant tout en commun. On n'est pas des SDF, loin de là. Comment les gens lisent-ils leur Bible? Marie et ses autres fils trouvaient que Jésus était hors de sens. Et il y en a qui trouvent que nous sommes hors de sens parce que nous vivons cela. Mais ne trouvez-vous pas plutôt que c'est le monde qui est hors de sens? Ne trouvez-vous pas plutôt que ce sont les églises qui marchent sur la tête, qui marchent à l'envers? Dans l'église primitive, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Maintenant, vous allez dans une église, vous voyez les mendiants à la porte. Alors oui, je suis hors de sens, parce que j'obéis à Jésus, au Jésus de la Bible, et je vis en communauté depuis 1977, c'est ça, hein, chérie, 77. Et tout en vivant en communauté, mon désir d'autonomie, c'est ma boussole, parce que j'ai pas seulement ce besoin de juger qui est le résultat de la connaissance du bien et du mal, mais j'ai aussi ce besoin d'autonomie. On a tous besoin d'autonomie. Pas vous ? Nous sommes en communauté, alors on n'a pas d'autonomie. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'on n'a pas d'autonomie ? Tu ne vis pas en communauté, tu ne sais pas. Ne juge pas comme ça vite. Ne te donne pas des excuses pour dire non, je ne veux pas vivre en communauté parce que je n'aurai plus d'autonomie. L'autonomie, elle m'a toujours aidé à lâcher les béquilles de la dépendance aux rigolos qui abusent de leur pouvoir. J'ai besoin d'aide. Oui, et je ne cherche pas à me débrouiller tout seul, absolument. Ça peut sembler paradoxal, mais le fait d'avoir besoin de mes chers frères et sœurs de la communauté me rend autonome. Et vous aussi, ça vous rend autonome. J'explique. Parce que je fais réellement partie d'un corps. Et Jésus m'a appris un art peu connu, et nous avons appris cela dans notre vie en commun. Jésus est le maître de l'art d'autonomiser ceux qui veulent réellement le suivre. Il n'arrête pas de nous inciter à formuler nos demandes. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il s'intéresse précisément. Il y avait un aveugle devant lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Peut-être que l'aveugle, son problème, c'était pas d'être aveugle. Peut-être que c'était autre chose. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux ? Et dans la communauté, c'est la même chose. On s'inquiète de savoir qu'est-ce que les frères et soeurs, de quoi les frères et sœurs ont besoin. Jésus était là, et comme la porte était infranchissable à cause des gens, eh bien, il y a des gens qui ont cassé le toit pour pouvoir passer. Leur ami qui était paralytique, elle descend jusque devant Jésus avec des cordes. Alors, plutôt que d'être empêché par des gens d'entrer là où est Jésus, en rendant l'accès difficile avec des dogmes, avec des traditions, avec des fausses croyances, avec des scandales comme cerise au-dessus du gâteau, eh bien, moi je casse le toit pour atteindre Jésus. Tant pis si ça fait des gravats, tant pis si vous trouvez que je suis hors de sens, tant pis si vous pensez que je suis fou. On a dit ça de Jésus, on a dit ça de Paul, on dit ça de nous, oui, puis on dit ça de tous ceux qui servent le Seigneur, hein, en général. La communion fraternelle, c'est ça. Sois autonome, demande de l'aide. Ça paraît paradoxal. Et Jésus, voyant l'amour fraternel de ces gens qui ont aidé cet homme à descendre par le toit, il regarde le malade et il frappe le lien maudit. C'est-à-dire, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que l'homme demandait le pardon de ses péchés? Non. Vous pouvez lire ça dans Luc 5, 20. Jésus était ému de compassion, lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Spontanément. Voilà, tu peux congédier ta culpabilité. Voilà, t'es libre. Et puis Jésus le guérit. Parce qu'évidemment, les religieux étaient très contrariés. Mais comment peut-il dire, tes péchés te sont pardonnés, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais justement, Jésus voulait montrer qu'il était Dieu dans la chair. Alors pour se marrer un petit peu, il leur dit, au fait, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile de dire tes péchés te sont pardonnés ou que prends ton lit à marche pour vous montrer que le Fils de l'homme, moi Jésus, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et marche. Et l'homme a été guéri. Alors il s'est levé, il était autonome, mais il a gardé ses quatre amis qu'il avait emmenés, qu'il avait aidé à aller jusqu'à Jésus. C'est ça la communion fraternelle. C'est le pouvoir d'aider et d'être aidé sans perdre son autonomie. Jésus ne lui a pas dit « Donne-moi ton lit, puis va vivre comme un SDF. » Non, il lui a dit « Prends ton lit et marche. » Donc il avait son lit, j'ai mon lit. Il avait sa maison, j'ai ma maison, nous avons notre maison. Il avait ses amis, j'ai mes amis. Il avait sa guérison, j'ai la mienne. Il avait le pardon de ses fautes, j'ai le pardon de mes fautes. Et comme moi, il avait ses limites, il avait ses blessures, il avait son profond besoin de sécurité, d'intimité, etc. Comme moi, pareil. Mais tant qu'on ne vit pas dans l'Église selon Jésus-Christ, on ne peut pas imaginer une telle plénitude d'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas la liberté complète, totale, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça, c'est de l'irrespect. Et c'est un manque d'amour. Quand Jésus lui dit de se lever, il s'est levé et il a fait face aux religieux, aux autorités religieuses, qu'il avait empêché d'entrer, parce qu'il bouchait la porte, qu'il avait empêché de voir Jésus, de penser comme Jésus pense, de parler, d'écouter Jésus qui voulait le libérer. Ce que je veux surtout relever, c'est que cet homme s'est surtout levé libre face à la masse inamovible de la culpabilité qui avait squatté sa vie. Libre de la culpabilité. Première chose, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez mes frères et sœurs? Et ça, vous l'avez vécu déjà. Tes péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés, c'est bien. Maintenant, marche. Avez-vous remarqué, Jésus n'a pas parlé de Dieu à cet homme. Relisez le texte, il n'a pas parlé de Dieu. Par contre, cet homme, lui, il s'est mis à louer Dieu. Et à le remercier. Parce qu'il savait bien d'où ça venait. Il avait rêvé d'autonomie physique. Il était coincé dans ce lit-là. Il avait rêvé d'autonomie physique. Il avait rêvé d'autonomie matérielle. Parce que quand on est comme ça, couché, surtout il y a 2000 ans, sur un grabat, eh ben, point de vue matériel, c'est pas la joie. Si on n'a pas des amis, si on n'a pas une famille, il n'y avait pas de sécu, hein. Mais là, avec Jésus, il a reçu bien plus. Et sans l'avoir mérité, sans l'avoir mérité, c'est pas à cause de vos mérites. Il était libre physiquement, psychiquement, intellectuellement, spirituellement, libre d'être lui-même, tout simplement. Libre d'être lui-même, tout simplement. Et lié à Dieu, et lié à ses amis. Parce que vous croyez qu'il les a oubliés, ses amis ? Vous croyez qu'après il s'est chicané avec ses amis pour un point de doctrine? Ça, c'est un trésor, mes frères et sœurs. C'est un trésor. On ne peut pas acheter ce trésor. On n'a pas les moyens d'acheter ça. Comment voulez-vous acheter ça? C'est pas possible, il n'y a pas de prix. Alors oui, il nous faut accepter d'être traité de fou. Comme l'homme, par exemple, qui a tout vendu pour entrer en possession du trésor. On va lire ça. Matthieu 13, chapitre 13, verset 44. Écoutez bien. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui prêchent ça. Ou alors ils le tordent. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Il y a un champ, et puis dans le champ, caché dans le champ, il y a un trésor. Et ce trésor, c'est le royaume des cieux. Il ne faut pas venir me dire autre chose, c'est écrit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé, il le cache encore mieux, hein, il le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Ça veut dire quoi? Ben ça va avec tout le reste du message de Jésus. Le royaume est comme un trésor qui est dans un champ. Et pour pouvoir posséder ce trésor, l'homme il pouvait vendre tout ce qu'il avait, il n'aurait pas pu acheter le trésor. Puis d'ailleurs, si c'est vendre pour pouvoir acheter quelque chose qui a la même valeur, c'est idiot. Vous comprenez? Donc il a tout vendu pour acheter le champ. Parce que quand il possédait le champ, quand il avait accès au champ, quand le champ était à lui, c'était chez lui, c'était son champ, alors il avait le trésor qui était dedans. Et cet homme a tout vendu, tout ce qu'il possédait, pour acheter le champ où se trouvait le trésor, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Est-ce qu'il a acheté le royaume de Dieu? Non, on ne peut pas. On ne peut pas acheter le salut, on ne peut pas acheter le royaume de Dieu. Par contre, on peut acheter notre droit d'entrée dans le champ. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que le champ avait moins de valeur que le trésor. Eh bien mes frères et sœurs, le champ c'est l'église terrestre dans laquelle ce trésor se trouve. Mais pour avoir le trésor, il faut tout vendre pour avoir son entrée légale dans le champ, dans l'église. Je répète, pour avoir le trésor qui est dans le champ, pour avoir le trésor qui est dans l'église, le salut, la guérison, l'autonomie, le bonheur, la paix, la guérison, toutes ces choses-là, il faut payer un prix, pas acheter le trésor, mais acheter le champ, acheter le droit d'entrer en possession du champ, le droit d'entrer dans le champ pour pouvoir posséder le trésor qui s'y trouve. Le champ, l'église, n'est pas le trésor. Vous demandez aux gens, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis pentecôtiste. Oui, je suis catholique. Oui, je suis baptiste, je suis méthodiste. Non, tu as, ça c'est des champs. Tu as un champ. Ce n'est pas ça que je te demande. Je te dis, est-ce que tu as tout vendu pour avoir le trésor? Quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Le champ, l'église, ce n'est pas le trésor, mais le trésor est caché dans le champ, dans l'église. Mais qui peut comprendre ça aujourd'hui? Aujourd'hui, il suffit de lever la main dans une réunion, d'avoir un entretien de baptême avec le pasteur, se faire plonger dans l'eau. Après, tu vas à toutes les réunions, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, puis ça y est, t'es chrétien, c'est comme ça. Après, tu rentres chez toi, tu bats ta femme, tu bats tes enfants, tu te bourres la gueule, tu fais ce que tu veux, personne n'y voit rien. Enfin, c'est pas tous les chrétiens, hein, mais bon. Qui peut comprendre ça aujourd'hui? Ceux qui ont acheté le champ peuvent comprendre. C'est-à-dire, ceux qui ont tout vendu pour avoir le droit d'accès au champ. On ne peut pas avoir le droit d'accès à la véritable église sans passer par là. Sinon, cette parabole, enlevez-la de la Bible. Déchirez cette page de la Bible. Enlevez-la. C'est un mensonge. C'est une hérésie. C'est un truc rajouté au XVIIIe siècle. Je ne sais pas ce que les théologiens vont vous inventer pour vous dire que non, ça c'était bon pour autrefois, mais aujourd'hui c'est plus comme ça. Ah, voilà, ils disent ça, hein. Qui a fait ça? Qui a vendu tout pour pouvoir posséder le trésor? Les premiers chrétiens, dans l'église primitive, les premiers chrétiens, ils faisaient ça. Tous ceux qui croyaient, vivaient ensemble, ils vendaient tout, ils mettaient au pied des apôtres, qui distribuaient à chacun ce qu'il avait besoin. Par exemple, je vous donne un exemple. On a eu un frère dans la communauté, et il a apporté ce qu'il avait, et puis il a un besoin, il a besoin d'un atelier. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Bon, on est en train de faire un atelier. C'est pas vrai, mon frère Samuel? Voilà. Est-ce que c'est un problème? Non. Et puis ça va être super qu'il ait un atelier, il va pouvoir nous réparer nos trucs et nos machins. Donc, vous voyez, on se rend service. C'est. Maintenant, vous avez des chrétiens qui rouspètent quand on leur parle de la dîme et des offrandes. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que Jésus est beaucoup plus exigeant que ça? Non. Pour eux, Jésus, c'est un doux Jésus aux pommettes roses qui leur dit « Mon petit troupeau, viens à moi et marche avec moi. Je suis ton sauveur, je t'aime. Quoi que t'aies fait, quoi que tu fasses, quoi que tu feras, je t'aime. T'as pas besoin d'obéir à ce que je dis, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est l'amour. » Je déteste faux évangile. Jésus n'est pas comme ça, il est beaucoup plus exigeant. La dîme, il dit que tu fais bien de la donner, mais il n'y a pas que ça. C'est pas vrai que Jésus dit ça. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps d'apostasie totale. Et les apostats, ce n'est pas les autres. Les catholiques pensent que c'est les protestants pensent que c'est les catholiques, les baptistes pensent que c'est les pentecôtistes qui pensent que c'est les baptistes, etc. Non. Demande-toi un peu si t'es pas un apostat, toi. Laissez-les vous traiter de hors sens. Vous, marchez dans le bon sens, c'est-à-dire comme Jésus dit de faire. Moi, je sais en qui je crois, je sais qui je suis, du verbe suivre, je marche comme il dit de marcher. Les chrétiens, ils se rendent compte de la gravité de la situation à l'heure actuelle. Ils se rendent bien compte. Comment voulez-vous qu'ils ne s'en rendent pas compte? Ils ont tous la télé maintenant. Dans les années 60, c'était interdit dans les églises. Maintenant, ils ont tous la télé. Vous allumez la télé, qu'est-ce que vous entendez? Pandémie mondiale, chômage, feu de forêt, tremblement de terre, catastrophe par-ci, catastrophe par-là, crime, meurtre, inceste, pédophilie. Qu'est-ce que vous entendez? Que des horreurs. Ils voient que les signes évidents de la venue de Jésus sont là. Ils disent tous Amen. Si je prêche sur le retour de Jésus et que j'énumère les signes, ils vont tous dire Amen. Mais qu'est-ce que ça change dans leur vie? Ils savent qu'ils ont à se sanctifier, tous ces chrétiens. Ils savent qu'ils ont à marcher plus fidèlement que jamais. Ils savent qu'ils doivent être en possession de la réserve d'huile nécessaire pour aller à la rencontre de Jésus qui revient. Ils le savent, mais ils ne savent même pas ce que c'est la réserve d'huile. Ils disent, c'est le Saint-Esprit. Ah oui? La réserve d'huile pour aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et ce que Dieu dit aujourd'hui par le Saint-Esprit, c'est ce qui rétablit l'Église dans sa position première. Il a commencé avec Luther à rétablir le salut par la foi, puis ensuite le baptême par immersion, puis ensuite le don du Saint-Esprit et toutes ces choses. Et maintenant, il est en train de rétablir l'Église, réellement dans l'état où elle était au départ, c'est-à-dire communautaire. Alors... Ils savent qu'ils doivent être en possession de cette réserve d'huile, c'est-à-dire de cette parole de Dieu pour notre temps. Ils savent ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font exactement comme dans les années 60, rien de plus. Qu'est-ce que l'Église devait faire dans les années 60? Évangéliser. Parce qu'on le fait toujours. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, Dieu a rajouté des choses. Il a expliqué des nouvelles choses. On ne veut rien savoir. Non. Et puis attendez, quand je dis qu'ils évangélisent, c'est même pas vrai. Ils évangélisent plus. Vous avez croisé souvent des gens qui vous donnent un tract dans la rue pour vous évangéliser? À part les mormons et les témoins de Jéhovah? Non. Ils n'entrent pas dans le rétablissement de toute chose qui est annoncé dans Actes 3:21. Ils n'entrent pas là-dedans. ils lisent même pas ça. Ou s'ils lisent, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Et en ce moment, les portes de l'évangélisation se ferment de plus en plus. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Parce que les chrétiens, c'est le peuple le plus persécuté du monde. On le sait. Il y a une ONG qui s'appelle Portes Ouvertes, qui existe depuis 1955. Un chrétien sur 8 est fortement persécuté dans le monde. Quand je dis qu'il est persécuté, c'est pas que sa voisine lui dit « Espèce de vieille folle de chrétienne !» Non, c'est pas ça. Persécuté. Mis à mort, brûlé, tué, massacré, enlevé les enfants. Alors voilà ce qu'ils disent. Le classement 2020 montre une augmentation de la persécution pour la 7e année d'affilée. Ça augmente de plus en plus. La montée de la violence en Afrique subsaharienne, c'est là où je vais, et en Asie du Sud et du Sud-Est est aussi une tendance marquante. Sur la période étudiée pour élaborer l'index mondial de la persécution des chrétiens de 2020, 2983 chrétiens ont été tués en raison de leur croyance. Et on est encore pas à la fin de l'année. 2983 chrétiens ont été massacrés en raison de leur croyance. L'ONG Portes Ouvertes estime que plus de 260 millions de chrétiens, c'est-à-dire un chrétien sur 8, sont fortement persécutés dans le monde. Parmi eux, ce sont ceux qui ont quitté leur ancienne religion, je ne vous dis pas laquelle, pour embrasser le christianisme, qui sont le plus persécutés. Pourquoi je ne vous dis pas laquelle ? Parce que je n'ai pas envie d'être persécuté d'autres sectes. Et le diable et ses copains se déchaînent. Et les chrétiens le savent, alors avant de dormir, ils disent « Seigneur, bénis tous ces gens qui sont persécutés. Aide-les, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Oh, Dieu. Tiens, je vais jeûner dimanche pour les chrétiens persécutés. Amen. Chérie, tu m'as préparé mon aspirine parce que j'ai un peu mal au dos, là. Oui, bon, c'est bien. Bonne nuit. À demain. » Ah, ce qu'on est bien quand même, ce qu'on est bien quand on est bien. Heureusement, nous, on n'est pas persécutés. Et plutôt que de se préparer au retour de Jésus en obéissant à sa parole, en vivant ce qu'il veut que nous vivions, la majorité des chrétiens disent « Michel Janton est hors de sens » quand ils écoutent mes messages. Et ils ne changent rien à leur façon de vivre leur christianisme. Oh, ils veulent des prophètes. Ah ça, ils cherchent des prophètes. Ils cherchent des prophètes, moi je les ai vus, hein, je les ai vus. Ils cherchent des prophètes pour savoir s'ils vont voyager, s'ils vont se marier, s'ils vont réussir dans leurs affaires. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Soyez trouvés fidèles à sa parole. Les gens diront que vous êtes fous. Mais souvenez-vous, qui sont les frères et sœurs de Jésus ? Ce n'est pas ceux qui disent « Amen, Alléluia » qui vont poser leur derrière à l'Église. C'est ceux qui concrétisent la volonté de Dieu. Amen. Au revoir.